Depuis plus de 40 ans, Aligre FM, votre radio culturelle, vous propose des programmes diversifiés, sans aucune interruption publicitaire. Parce que cette radio est la vôtre, vous pouvez nous aider. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le site aligrefm.org. Découvrez nos podcasts et laissez-vous guider pour faire un don en cliquant sur le lien en bas de page.
Aligre FM 93.1.
Bonjour et bienvenue dans Vive le cinéma et ses déclinaisons Nuit américaine, une émission de cinéma d'Aligre FM 93.1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans cette émission de Bernard Payen, réalisée ce matin par Sébastien. Ce matin, nous parlons de Disco Boy, un premier long métrage sorti en salle de Giacomo Abruzzese. Bonjour Giacomo.
Bonjour.
Le film raconte comment un jeune homme, Alexei, s'enfuit de Biélorussie pour s'engager dans la Légion étrangère. Il est envoyé au combat dans le delta du Niger où Jomo, un jeune révolutionnaire, lutte contre les compagnies pétrolières. Et le film va raconter comment ces deux personnages aux rêves en apparence bien distincts vont se croiser, comment leurs destins vont se réunir. Le film était présenté cette année à la Berlinale où il a reçu un ours d'argent dédié à sa chef opératrice, la grande Hélène Louvard. Premier long métrage produit par la société de production Film Grand 8. Lionel Massol et Pauline Seglan, qui avaient été reçus il y a quelques temps d'ailleurs dans cette émission par Pierre Charpillose, dans cette émission Vive le cinéma sur Aligre FM. Alors Giacomo, vous êtes un cinéaste italien qui avait grandi dans les années 80 à Tarente, là où vous êtes né, dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie. Comment le cinéma et l'envie de faire du cinéma est arrivé dans votre vie ?
Je suis né dans les années 80, mais voilà, c'est surtout les années 90 que je me souviens un peu plus à Tarente.
Pas trop dans l'enfance, fin des années 80, non ? C'était quoi les premiers films ?
Bah, moi, je viens d'un milieu populaire. Du coup, mes premiers films, c'était surtout au cinéma, c'était surtout des cartons Disney. Donc, en particulier, je me souviens de La Belle et la Bête. Et par contre, c'est pas anodin parce qu'il y avait un personnage, en fait, les chandeliers, Lumière, qui parlait dans la version italienne avec un accent français, en fait. Et de temps en temps, il balançait des petits « c'est magnifique ». C'est beau, je sais pas quoi. Et c'est en fait c'est lui qui m'a donné envie, la curiosité d'apprendre la langue française. Je pense que Laetitia Casta aussi, dans son apparition à la télévision italienne, a joué un rôle. Mais voilà, c'est un peu comme ça en fait, d'une façon très improbable, que j'ai eu envie d'apprendre la langue française.
Et du coup, beaucoup par la télé, pas forcément au cinéma, là, dans la salle de cinéma.
Bah, quand j'étais enfant, non, les Disney, je l'avais vu au cinéma.
Ouais,
okay. J'étais enfant. La passion pour le cinéma français est venue à un âge, disons, plus adulte, enfin quand j'étais ado, après surtout, je pense, quand j'ai commencé la fac, j'avais 19, 20 ans, j'ai découvert la nouvelle vague. Sinon, en fait, mes souvenirs plus de adolescence, c'était plus quand j'ai découvert un peu un autre cinéma, disons, par rapport à celui qui sortait dans les salles de Tarente. C'était surtout la scène expérimentale américaine, Kenneth Anger, Andy Warhol, tout ça, et Lydia Lynch, et après le cinéma asiatique. Tsai Ming-yang, très important pour moi.
C'est ça les influences initiales, on va dire. Et en tout cas, vous avez développé dans vos courts-métrages un goût pour l'ailleurs et les récits inattendus, pour la tension politique aussi. Et tout ça se retrouve dans Disco Boy, dans ce premier long-métrage. Du coup, qu'est-ce que représente le cinéma pour vous, la pratique du cinéma aujourd'hui? Est-ce que c'est une envie justement d'explorer des territoires scénaristiques ou géographiques qu'on ne connaît pas? Parce qu'il y a ça qui revient souvent.
Pour moi, effectivement, j'ai choisi le cinéma enfin, depuis que je suis ado parce que je trouvais que c'était la forme dans laquelle je pouvais mieux m'exprimer et je pouvais mettre vraiment plus des niveaux en fait, des choses, et d'un point de vue formel, d'un point de vue narratif, d'un point de vue conceptuel. Donc, pour moi, voilà, c'est un peu la forme d'art qui peut, disons, embrasser des différents horizons. Et après, j'étais toujours fasciné en plus pour le côté performatif du cinéma aussi. C'est très important pour moi, les tournages, l'énergie du tournage, le fait qu'il y a un gros challenge, c'est très important pour moi. J'ai du mal à filmer juste à l'intérieur, je m'ennuie rapidement.
Ça, on pourra évidemment en reparler parce que c'est très présent dans Disco Boy, mais du coup, l'étape du tournage, c'est un peu votre étape préférée. C'est un peu l'étape la plus physique, quelque part.
Oui, absolument. Après, j'avoue, celle de Disco Boy était particulièrement dure. Donc, je peux dire que c'était quand même le pire tournage de ma vie. Mais sinon, en général, j'aime beaucoup. Je fais ce métier pour le tournage.
Puis un film qui a une genèse aussi très, très longue. Ça fait longtemps que vous aviez envie de faire ce film, en fait, aussi Disco Boy.
Oui, ça a pris énormément de temps, ça a pris 10 ans, en fait, toute la phase, disons, de recherche, d'écriture, et surtout très longue la phase des financements. J'ai changé de 3 producteurs, trouvé la bonne config, en fait, avec 4 pays, parce que c'était un film très cher pour être un premier film.
Parce que beaucoup de décors, parce que beaucoup de pays, beaucoup de tournages.
C'est quand même, même si c'est un film de guerre très atypique, ça reste un film de guerre. Il y a des décors importants, il y a de la figure importante, il y a des scènes de boîte de nuit. Ouais. Donc, il fallait disons qu'on arrive à trouver vraiment des financements partout. Tous les financements qu'on pouvait avoir, en gros. Et à la fin, même si on a trouvé, du coup, au bout de 10 ans, 3,5 millions, car enfin j'ai trouvé aussi la bonne config des producteurs, même avec 3,5 millions, j'arrivais pas à trouver en France un directeur de prod, un premier assistant qui voulait faire le film.
Ah oui, carrément.
Tout le monde disait que c'était impossible.
Tout le monde disait non.
Disait il faut aller au moins 1 million de plus, au moins 10 jours de plus. Et bon, maintenant, je suis content que certains des gens qui m'ont dit non, maintenant ils m'écrivent pour me dire qu'ils auraient dû y croire et que parfois on sous-estime ce qui est possible. Et je pense surtout en Occident, on est de plus en plus paresseux par rapport à ça. On est dans nos conforts de vie et les gros challenges nous font un peu peur. Mais parfois, pour faire certains types de films, je pense qu'il faut un peu basculer la ligne entre ce qui est possible et ce qui est impossible. En tout cas, les films que moi j'aime au cinéma, souvent, ils sont posés ce challenge presque physique, en fait.
C'est intéressant parce que ça rejoint aussi quelque part le sujet du film, parce que l'un des territoires inconnus explorés dans le film, c'est l'utopie. Disco Boy raconte l'histoire de quelqu'un en mutation, en transformation, qui suit une trajectoire et qui aboutit à une forme d'utopie. On pourrait voir ça comme ça.
Oui, je pense que le film, sur le final, il ouvre à une sorte d'utopie.
Tend vers ça.
Oui, je pense, d'un point de vue conceptuel, c'est vraiment la question qu'on ne fait pas la paix avec tes amis, on fait la paix avec ton ennemi. Et de quelque sorte, on a un monde à partager et on est obligé de danser avec l'autre. Donc, si on veut traduire ça, c'est ça, je pense, l'ouverture utopique de la fin. Et après, on peut la décliner de mille façons. Est-ce qu'ils sont tous les deux de fantômes? Est-ce que c'est dans la tête d'Alexei ou pas? Mais c'est quand même un geste, je pense, de vie, de désir, d'utopie. C'est pas... Même s'il y a... Le film joue constamment entre la dimension des vivants et des morts. il inclut les morts, en fait. Mmh. Il inclut l'invisible d'une façon, sans mettre des frontières, en fait. Mmh. J'ai essayé de justement détruire plusieurs frontières dans le film, et notamment aussi cette frontière-là. Donc, ça reste un final ouvert, mais je pense que, disons un peu le sens profond du film, c'est ça.
Mais c'est ça aussi, justement, quand on parle de film de guerre, justement, c'est aussi l'idée de, d'un soldat, d'un combattant qui va épouser, en quelque sorte, le but recherché par son ennemi, et qui va réaliser le rêve de son ennemi, quelque part. C'est un peu ça que raconte Disco Boy.
Tout à fait.
Sans déflorer, d'ailleurs, on ne déflore rien en disant ça, juste là.
Oui, c'était ça un peu... Enfin, tout partait, en fait, de cette idée que... Je trouvais qu'il manquait au cinéma, notamment même dans les films de guerre que moi j'aime, la question de l'autre, proprement. Mmh. En fait, l'autre n'existait jamais. Que ce soit victime ou ennemi, n'existait pas. Existait pour une minute, 30 secondes. Et j'avais vraiment ce désir de raconter un film où l'autre avait droit vraiment à, disons, un espace narratif, émotionnel important. Et qu'il n'y a pas une question de bon, méchant, en fait, des côtés. Alexei, c'est un légionnaire, donc c'est quasiment un mercenaire. C'est dans l'échelle de considération des gens, peut-être un peu plus haut qu'un pédophile, tu vois. C'est vraiment le niveau plus bas. Mais en même temps, le film trouve absolument l'humanité dans Alexei. Je pense qu'il y a de l'humanité, même où on ne se l'attend pas. Comme il y a du sacré, on ne se l'attend pas. Et même chose, Jomo, c'est un révolutionnaire, en même temps, on pourrait appeler aussi un éco-terroriste. La ligne est assez subtile. Donc, c'est pas des gentils. C'est des gens qui étaient, de quelque sorte, obligés à prendre des armes, juste pour pouvoir imaginer leur vie, en fait. Imaginer leur vie différente.
Un des défis du film, justement, c'est ça, c'est de s'attacher à des gens qui sont quelque part redoutables, qui ont aussi des histoires difficiles, des blessures, des violences en eux, et on s'attache à eux pourtant.
Oui, je voulais vraiment éviter un attachement facile avec le spectateur, une empathie facile vers le personnage. J'ai toujours un peu mal à l'aise quand il y a des personnages qui... Un peu, en italien, tu dis civetta, non? Il cherche l'empathie un peu facile avec le spectateur. Au contraire, je voulais vraiment qu'Alexei soit très mystérieux, presque faisait un petit peu peur, et en même temps qu'on sentait une profondeur, un abîme important dans lui, qu'on pouvait se projeter des choses, se raconter des choses, sans que moi je les dise ces choses-là. On a quelques infos, on sait qu'il part de Biélorussie, on découvre que c'est un orphelin, mais ça ne m'intéressait pas d'être dans une logique cause-effet, en fait. Et ça m'intéressait vraiment juste de partir des effets. Et qu'à part la porte aux causes, on pouvait projeter effectivement des choses. Et oui, je pense voilà, aussi travailler avec un acteur comme Rogowski, c'était quelque chose justement qui me permettait ce genre de pari.
Et bon, ce qui est intéressant, c'est aussi que ce sont des personnages qui se définissent par leur corps, pas par leur psychologie, mais par leur corps, la façon de s'imposer, de se déplacer, de se mouvoir.
Absolument. Avec Franz, par exemple, on n'a pas du tout travaillé, disons, d'un point de vue psychologique sur le personnage. On travaillait tout le temps sur des questions de posture, comment il allait marcher, comment il allait boire, comment il allait s'asseoir. C'était vraiment ça. Et comment ça allait légèrement changer au fur et à mesure du film, en fait. Je pense qu'avec Rogowski, effectivement, c'est possible de faire un travail vraiment de sculpteur. Et oui, c'est quelqu'un qui a ce genre aussi d'intelligence et de précision dans son jeu où on peut faire ce genre de pari qui m'intéressait beaucoup plus, en fait.
Il a une formation physique, il vient du cirque, d'ailleurs.
Oui, il vient du cirque. Et c'est pour ça, voilà, c'est un acteur, en fait, qui est capable de jouer avec tout son corps, chose qui pour moi est très, très important. Le corps, inclure vraiment le corps dans l'image, en fait.
Et peut-être aussi on pourrait dire que, en tout cas de l'acteur qui incarne Jomo, qu'il a un corps aussi qui porte une histoire personnelle importante.
Absolument, non. Et autant Franz, c'est un acteur professionnel, disons déjà établi, enfin, de plus en plus en tout cas.
Jomo, c'était un pari.
Jomo, c'était un pari total. C'est un acteur non professionnel. C'est un migrant qui est arrivé légalement en Italie. Vraiment, il a fait Les bateaux, les passeurs, les centres, où on peut appeler les champs, en Libye. Il a fait un centre pour mineurs en Italie. Et en fait, c'est mes producteurs qui avaient réalisé un petit documentaire en fait, sur ce centre en Italie. Et ils avaient donné des téléphones aux mineurs qui étaient dans ce centre pour qu'ils filment un peu leur vie. Moi, j'ai vu ce documentaire, il m'avait frappé justement mort, le personnage l'acteur qui interprète Jomo. Mm-hmm. Et parce que je trouvais qu'il avait une sensibilité différente par rapport à tous les autres. Il avait vraiment un regard. Moi, je l'appelais le poète. Et du coup, je l'ai rencontré. Il m'a beaucoup plu. Et je pensais à lui au début pour un rôle secondaire, en fait. Je voulais l'inclure dans le projet. Au début, même lui, il avait peur de faire le film. Il ne voulait pas faire le film parce que ses geôliers en Libye étaient des Nigériens. Donc, il avait des très mauvais souvenirs. Et il ne voulait surtout pas jouer un Nigérien. Et finalement, je lui ai raconté voilà, l'histoire de Jomo. Je lui ai expliqué bien le film. En plus, son rêve, c'était d'être acteur, vraiment.
Ah oui.
C'est quelqu'un de très déterminé, très sérieux. Et c'est vraiment au fur et à mesure des castings qui m'a vraiment impressionné pour sa capacité de s'appliquer, de s'améliorer. Et je trouvais qu'il avait ce charisme. Et en même temps cette fragilité, ces blessures, ce corps important, mais en même temps lui aussi de quelque sorte brisé de l'intérieur. Et pour moi c'était parfait, j'ai rapidement été sûr de lui. Mes producteurs ils avaient un peu plus peur, parce qu'il était un non-professionnel, c'était un rôle important. Mais j'étais vraiment persuadé que c'était le bon choix et je pense qu'il a amplement prouvé. Et je pense qu'aujourd'hui Mordia est un acteur.
C'est amusant qu'il avait aussi, lui, son propre rêve, qui n'était pas de danser, mais de jouer, d'être acteur dans un film. L'émission s'appelle Nuit américaine, et il se trouve que la nuit est extrêmement importante dans Disco Boy. Alors, d'ailleurs, ce ne sont pas des nuits américaines ou des nuits bleutées dans le film, ce sont des nuits très très noires. Et je voulais donc d'abord vous poser la question de l'importance de la nuit dans votre travail, et notamment dans ce film, la manière de la filmer, de l'éclairer, d'éclairer des personnages la nuit aussi. Et là, c'est la nuit a une place tout à fait importante dans Disco Boy.
Absolument. Il devait même y en avoir un peu plus de nuit. Après, pour des questions budgétaires, on a dû restreindre un peu plus les nuits. Parce que c'est beaucoup plus cher tourner la nuit. Ça fatigue davantage les équipes. Et tout ça. Il y a toute une série de contraintes dans les nuits. Mais absolument, oui, c'est aussi un voyage au bout de la nuit, on peut le dire.
Oui.
Et surtout dans la troisième partie du film, notamment. C'est à Paris.
Alors, quel type de nuit vous vouliez travailler avec Hélène Louvard, la chauffeur actrice?
Effectivement, moi j'ai souvent tourné aussi pas mal de mes films dans des nuits. J'avais expérimenté plusieurs techniques différentes. Par exemple, dans Stella Maris, j'avais mélangé de nuits américaines avec des nuits normales. En fait, il y a toute une série de choses qui c'est possible de faire si tu suis certaines règles. En fait, c'est des choses techniques, mais que ça marche en fait. Si tu le fais bien, tu peux tout mélanger. Et ici, en même temps, vu qu'on était sur des choses assez minimales, notamment dans la troisième nuit, on voulait vraiment, au fur et à mesure, descendre dans quelque chose de plus en plus sombre, vraiment dans une espèce d'abîme, quand on regarde après un ciel étoilé, quelque chose comme ça, où on est seul dans un parc, je voulais vraiment qu'il y ait une noire absolue, et que dans ce noir absolu autour de Alexei, il émerge justement le fantôme de Jomo. Donc c'était important de faire cette descente quoi, aux enfers, disons. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour cette partie-là, par exemple, on n'a pas utilisé des nuits américaines, on a fait vraiment des vraies nuits. Après, il y avait tout aussi un pari, parce qu'on voulait faire des vraies nuits où tout était éteint. Donc on a filmé Paris d'une certaine sorte qu'on ne voit pas des lumières. Et s'il y avait des lumières, on les éteignait. Et les uniques lumières qu'on voit dans cette partie-là, c'est les lumières du bateau mouche, justement, qui apparaissent un peu comme façon fantomatique et qui nous fait penser un peu à la disparition de Mikhaïl, l'ami d'Alexei.
Oui, complètement, parce que c'est aussi un film de deuil. Enfin, le personnage d'Alexei vit aussi dans le deuil de son ami qui meurt au début du film. Alors, oui, parce qu'effectivement, c'est compliqué de tourner à Paris la nuit. Enfin, y a beaucoup de lumière polluante dans les rues.
Absolument. Non, c'est... C'était un des challenges. En plus, je pense qu'on filmait ce plan-là, c'était quoi, un vendredi soir, donc c'était très compliqué. Mais on avait aussi, en fait, on avait plutôt bien calculé les choses qu'on pouvait filmer, où on allait être tranquille. Et s'il y avait des petites choses, on allait intervenir en post-production.
Alors, on entre dans le film, parce que qui dit nuit dit aussi, évidemment, onirisme, somnambulisme. Le début du film apparaît comme un rêve, avec ce travelling avant sur un homme endormi. Donc cette présence dont vous parliez tout à l'heure du rêve, de l'onirisme, de limite fantastique, de la présence des morts, des fantômes, elle est présente dès le départ. J'ai l'impression que c'est un film de somnambulisme aussi. C'est un film qu'on peut rêver nous aussi comme spectateurs.
Oui, le film est quand même construit comme un rêve collectif. Ça commence effectivement sur des Galiléos qui dorment. Souvent, on a des images d'Alexei qui se réveille, qui s'endort. Et à un moment, les deux rêves se croisent littéralement dans le film. Et donc, oui, la construction, c'était justement la question du rêve collectif. Et après, oui, il y avait cette idée, comme je disais tout à l'heure, que justement l'invisible, le virtuel, soit intégré dans le film. J'ai toujours du mal avec les films où, d'un coup, quand on est dans un rêve, on part sur des colorimétries très différentes, surtout des coups totalement différents. Je trouve que quand on rêve, on ne nous dit pas tout de suite que c'est un rêve. On ne le sait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois les rêves ils sont effrayants, parce qu'au début, ils sont comme la vie de tous les jours. C'est juste qu'après, il y a des choses un peu différentes qui se passent, mais ce n'est pas si clair la distinction, en fait, je trouve. Et c'est après, voilà, le matin, que tout devient parfois un peu plus clair, mais sinon les choses, comme en général les choses dans la vie, sont beaucoup plus entremêlées. On a l'habitude de plus en plus de séparer les choses de façon imperméable. Je pense notamment à l'histoire du corps du danseur, le corps du soldat. Mmh. À une époque, c'était pas très, très longtemps, ces deux univers. On pouvait être ça, danseur et soldat en même temps. Je pense au Jomo, de quelque sorte, il est danseur et soldat. Et nous, effectivement, pour nous, ça nous semble des choses tellement lointaines. Et c'est justement quand j'ai rencontré ce danseur dans une boîte de nuit qui avait été soldat, que je me suis aperçu de l'évidence du fait qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Question de la chorégraphie, de la discipline, le besoin d'un effort physique presque extrême, d'arriver à la fin de la journée épuisé. Il y a quand même des points de contact intéressants pour faire après totalement autre chose, bien sûr.
Et lui, c'était un peu le point de départ du film, quelque part, cette personne que vous avez rencontrée, qui était à la fois soldat et danseur.
Absolument, c'était vraiment ce qui m'a donné l'idée initiale du film. C'était il y a 12 ans, dans une boîte de nuit au sud d'Italie, dans les Pouilles. Ça m'avait vraiment intrigué. Pas vraiment la personne en soi-même, mais le fait. Ce qu'il a incarné, en fait. Et après, je me suis demandé, parce qu'il n'était pas légionnaire, mais je me suis demandé quel corps militaire sont-ils intéressés de filmer. Et tout de suite, c'est venu pour moi comme une évidence, la légion étrangère. Parce que c'était vraiment... Il y a une composante iconique, hyper fort, mythologique. Et c'est étrange parce qu'en même temps, il n'y a pas beaucoup de films qui ont été faits sur la légion, pour combien c'est important. Et en même temps, en plus, aucun film vraiment avait raconté qu'est-ce que c'est vraiment la légion pour les étrangers, en fait. Et du coup, je pensais que c'était un peu mon duty de raconter ça. Et c'est pour ça, je pense, que le film dans le monde, il intrigue autant. C'est parce que vraiment, les gens ne savaient pas qu'on peut avoir des papiers en France en s'engageant dans la légion.
Oui, complètement, complètement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, là, on parlait beaucoup de somnambulisme, d'onirisme, etc. Mais il y a une part aussi presque documentée, sur la légion étrangère dès le départ du film. Et aussi de l'autre côté, au Nigeria, sur cet organisme révolutionnaire auquel appartient Jomo, en fait, qui existe aussi.
Absolument, oui. En fait, j'ai toujours du mal. Moi, j'aime bien partir des choses très documentées et après aller vers l'abstraction. Mais j'ai du mal parfois quand les films, notamment par exemple des films qui se tournent en Afrique, ils disent « quelque part en Afrique, restons vagues ». J'ai déjà beaucoup entendu ça dans les financements des Disco Boy. Et c'est quelque chose que j'ai voulu défendre parce que nous, on n'accepterait jamais en Europe de dire « quelque part en Europe, quel film ferait ça ?» aucun film. Il y aurait toujours une connotation qui nous ferait comprendre, même juste par la langue, immédiatement située où on est. Qu'en Afrique, il y a toujours cette tendance, un exotisme, même qui s'y veut être bienveillant, mais restons flous, restons vagues. Et en fait, je trouvais dommage, parce que même en utilisant justement l'abstraction, on peut partir des choses qui existent vraiment. Donc le delta du Niger existe vraiment, le Mende existait vraiment. Après, ça ne veut pas dire que moi je vais faire exactement le documentaire sur le Mende, et comme je ne le fais pas sur la Légion étrangère, les choses s'inscrivent aussi dans sa dramaturgie, mais le Mende, c'est un mouvement qui existait vraiment, existe toujours, et qui, en fait, c'était surtout actif il y a 10-15 ans, mais c'était vraiment, je dirais, le premier mouvement écologiste qui prend les armes. Et ça m'intéressait que cette sorte d'avant-garde de lutte armée venait d'Afrique, venait dans des endroits plus pollués du monde.
Pour ce qui concerne en tout cas la Légion étrangère, bon, y a un film qui vient en fait immédiatement à l'esprit aussi pour en fait des corps de soldats qui sont aussi des corps de danseurs, c'est Beau Travail de Claire Denis. Donc j'imagine que c'est un film qui était important aussi pour vous.
Si je suis sincère, moi j'avais pas vu Beau Travail. Et c'est juste que, et en finançant le film, bien sûr, ça venait souvent. Souvent, les gens me disaient « Ah ben, ça fait trop penser à Beau Travail, est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que c'est une source d'inspiration ?» Je dis « Bah, en fait, non. » J'avais vu, bien évidemment, des films de Claire Denis. D'ailleurs, j'adorais Trouble Every Day. Mais j'avais pas vu toute sa filmographie, en fait. Et après, vu que tellement on m'a parlé de ce film, que je l'ai regardé à peu près un mois avant le tournage, très beau film, d'ailleurs, mais je pense que le point de contact, c'est l'intérêt pour le corps. Et ce que j'ai trouvé aussi très touchant, c'est que, enfin, moi je ne le savais pas, mais on avait eu, disons, la même projection qu'effectivement, bon, moi c'était une rencontre en fait, mais la même projection qu'effectivement sur le corps du soldat, le corps du danseur. Mais après, si je suis honnête, je voulais faire pas un hommage. En fait, au film de Claire Denis, même si à la fin ça peut résonner pour certains spectateurs comme ça, notamment
par la danse
en France, par la danse, mais en tout cas c'était pas volontaire. Enfin, en tout cas, si c'est là, c'est parmi plein d'autres références, je pense, à laquelle j'ai pensé encore plus pas que j'ai pensé. En fait, c'est moi, je trouve par exemple que vraiment c'est les choses qu'on a aimées finalement nous habitent, construit notre regard, notre sensibilité. Donc tout ça, ça fait partie de nous. Donc voilà, avant on parlait de Tsang Liang, mais voilà, je pourrais parler de Godard, de Kubrick, de Scorsese. Enfin, il y a plein de choses, Antonioni, de Pasolini, toutes les choses, Fassbinder, il y a plein de choses qui finalement te collent à la peau, te restent. Et, mais si je pense à Claire Denis, moi je pense plus à Trouble Every Day.
En tout cas, c'est des choses totalement... voilà, le principe des références, comment elles resurgissent, c'est totalement inconscient, généralement. Et c'est, ou alors, c'est peut-être un peu plus délibéré. Il y a une autre référence dans le film qui est importante, c'est tout ce qui tourne autour de Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, adapté par Coppola dans Apocalypse Now. Il y a aussi cette idée-là pour toute la partie dans la jungle.
Absolument, mais en fait, ça, c'est plus, je pense, les véritables sources d'inspiration du film. C'est vraiment, c'est plus littéraire en fait. C'est plus effectivement Art of Darkness de Conrad, c'est J'ai tué de Blaise Cendrars, Voyage au bout de la nuit de Céline. C'est, je pense, vraiment des livres pour moi très importants en général. Et c'est des livres, Art of Darkness, je l'ai lu à 16 ans, je n'ai jamais relu, mais ça m'est resté justement. Et ça, je pense, c'était aussi quelque chose de raconter la guerre, je pense surtout à Céline à ce moment-là, hors de tout rhétorique. C'est tellement important aujourd'hui.
Complètement. On va écouter un premier extrait de la bande originale du film, composé par Vitalik, qui est très importante dans le film, évidemment. Donc on va écouter ce premier extrait, je crois qu'on écoute The Rising pour commencer. Et puis évidemment, on va en parler après.
Vous écoutez Aligre FM 93.1. Pierre.
Pierre.
Écoutez donc Vitalik, un extrait de la bande originale de Disco Boy. On est en compagnie de Giacomo Abruzzese pour parler de ce premier long métrage sorti le 8 mai dans les salles. On est sur Aligre FM 93.1, on écoute Nuit américaine. Alors Vitalik, c'est une référence, c'est très important cette musique, évidemment, pour un film qui parle de danse et qui travaille aussi beaucoup la question du corps, de l'épuisement. C'était un musicien avec qui vous aviez envie de travailler dès le départ ?
Absolument. Vitalik était attaché au projet depuis un moment et aussi était dans mes pensées par rapport à ce film depuis quasiment le début, en fait. Et parce que je trouvais que dans sa musique, dans sa techno, il y avait une verticalité, il avait quelque chose de sacré, ou en tout cas un potentiel de sacré. Et je pensais que c'était quelque chose justement qui pouvait nous conduire vers cette sorte d'ascension, que c'est l'ascension d'Alexei dans le film. Et aussi, il y a un côté mélancolique, je pense, à la musique de Vitalik, parfois un lyrisme. Et je trouvais que c'était ce genre d'ingrédients qui je cherchais dans l'électronique qui allait aller avec Disco Boy.
La musique était composée, j'imagine, avant le tournage ?
C'était très mélangé le processus, en fait. Moi, j'avais demandé à Pascal, après, du coup, le vrai nom de Vitalik, de me donner des morceaux avant le tournage. Et moi, je lui avais parlé longuement du film, de l'atmosphère, je lui ai donné des références musicales, des photos. Et j'étais assez frappé quand c'était l'été, donc on allait tourner en septembre, il me donne justement 3-4 morceaux, dont The Rising, et que j'ai trouvé absolument pertinent au film, incroyablement pertinent à ce que j'ai cherché. J'étais presque ému de les écouter pour la première fois, même Winter. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait écouter justement ces morceaux-là à la directrice de la photo, Hélène Ouvard, à Franz Rogowski, au cast en général aussi, à Mordiay, à Tisaki, pour que en fait, le film puisse s'imprégner de ces sonorités-là. Et c'est pour ça, je pense, que même s'il y a pas mal de musique dans le film, je pense qu'on évite justement l'effet clip. C'est quelque chose vraiment qui est là, qui est dans les couleurs, qui est dans les images. Enfin, c'est quelque chose de très organique au film. Et d'ailleurs, il y avait une critique sur un journal italien, l'Espresso, qui m'avait assez touché. Je n'avais pas pensé, il s'appelait, il disait, bah, Disco Boy, c'est une sorte de musical à main armée. Et c'est intéressant parce que moi, en plus, je ne suis pas du tout fan des musicals en général. Enfin, je suis peu, disons, pas quelques exceptions, mais c'est vrai qu'effectivement il y a toute une présence de la chorégraphie au-delà des scènes de danse. Le film est très chorégraphié, il y a une place importante de la musique, et c'est vrai du coup qu'il y a absolument un côté musical. Mais ça, je pense, c'était justement parce que la musique habitait le film déjà. Avant le tournage, pendant le tournage, les acteurs, justement, ils ont, pour un mois, ils sont entraînés à la danse. Il y avait déjà, justement, la musique de Pascal, italique.
Il y avait un chorégraphe, hein, c'est ça, Koudous Onikeku, c'est ça
Oui, il y avait un chorégraphe nigérien sur le film Koudous. Moi, j'avais vu par hasard un spectacle de lui au Centre Pompidou. Et en fait, ça m'avait frappé, comme, même si on venait des horizons très différents, enfin, moi, italien, qui habite en France depuis un moment, et lui est nigérien, on travaille exactement sur la même chose, en fait, sur la question de la réincarnation, le retour des fantômes, sur la structure spirale. Et même l'approche était similaire parce qu'on travaillait les deux sous des éléments archétypaux, presque parfois primitifs, ancestrales, mais avec les baignants avec des codes du contemporain aussi. Et du coup, ça me semblait une évidence de devoir travailler ensemble. Et c'était un véritable plaisir parce que aussi, une chose, c'est avoir un consultant nigérien. Or, j'avais des consultants pour la langue, pour les costumes et tout ça. Mais c'est toujours un peu, comment dire, ça risque d'être un peu académique. Qui est là, en fait, de travailler avec un artiste nigérien, c'était totalement autre chose parce que c'était un échange. Et parce que du coup, on pouvait se prendre même des libertés, penser ensemble des choses sur les costumes, sur les décors. Enfin, c'était. Il fallait être respectueux, en même temps, pas être respectueux. On pouvait s'amuser aussi.
J'ai une petite parenthèse, mais quel rapport vous aviez au Niger avant ? J'ai l'impression que vous aviez. C'est un pays qui vous fascine énormément.
Moi, en fait, la curiosité par rapport au Nigeria, c'était dû en fait parce que j'avais rencontré des migrants dans ma ville, la tante, qui venait de Nigeria. Et du coup, j'avais commencé à entendre parler du delta du Niger. Après, il y avait des articles en fait, qui sont sortis sur le Manifesto, mais je parle il y a 13 ans. Manifesto, c'est voilà, un journal italien, qui parlait justement du Mende et qui justement m'a commencé à intéresser sur ce mouvement, parce qu'en fait, moi, je viens aussi d'une ville qui était totalement dévastée par, l'industrialisation, et qui a une usine qui est trois fois plus grande que la ville même, elle s'appelle Tarente, ma ville. Et du coup, j'avais déjà fait un court-métrage, justement, qui s'appelle Fireworks, sur un groupe d'éco-terroristes qui font sauter
l'usine,
voilà, le 31 décembre, au milieu de feux d'artifice.
Oui, complètement. Mais c'est parce que la question du territoire, elle est très, très importante dans votre cinéma aussi, la manière dont on filme l'espace. Du coup, ça, c'est quoi le processus de création ? Il y a beaucoup de travail de repérage sur des lieux précis.
Oui, pour moi, les lieux sont autant importants que les acteurs. Vraiment, hein, c'est la même importance. Parce que c'est vraiment, je trouve... qu'il y a une âme dans les lieux et qui vont tellement donner. Et c'est pour ça, justement, parfois, il y a un peu la tendance de faire des films où on peut garer les camions. Mais ça, c'est très pauvre, en fait. Parfois, c'est pour ça, quand je dis de se compliquer la vie, parfois, pour atteindre des choses. Parfois, la logique, vous allez qu'on mette tout ensemble, qu'on trouve des décors partout, ils sont tous ensemble. Mais ici, il faut faire un truc un peu rationnel. On ne peut pas... vraiment tourner dans, je sais pas, 10 décors par jour. À un moment, il faut que les choses se regroupent, mais c'est important qu'il y a au moins certains lieux, pour moi, qui sont vraiment chargés de quelque chose. Parce que c'est cette âme du lieu qui va vraiment m'inspirer, en fait, pour la mise en scène, pour le tournage. C'est pour ça, je pense, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment du mal à tourner intégralement en studio, en fait. Je ne pourrais pas. Je pense que mon imagination a besoin, même si c'est très précis, mon dispositif, la mise en scène, découpage, tout existe avant. Au même temps, j'ai besoin de créer un dispositif d'un certain type et après le confronter, le faire dialoguer avec le réel, même le mettre en crise en fait. Et c'est comme ça, je pense, que j'arrive de quelque façon à reconstituer une forme de vie. Quoi.
Dans la vision de Paris, c'est vrai que j'ai l'impression que le fleuve était très important. Enfin, il fallait quelque part tourner autour du fleuve, autour de la Seine. Et puis, évidemment, cette entrée du personnage d'Alexei au début du film dans Paris, qui est cette entrée dans Paris, c'est le pont Alexandre III. Donc, c'est très surprenant, en fait, qu'il arrive sur ce pont avec des gros plans sur cette sculpture du pont Alexandre III.
Oui, j'ai fait tous les tours de tous les ponts de Paris, tout seul, pour choisir le pont dans lequel Alexei il allait entrer dans Paris. Et après, ça m'amusait, parce que le pont Alexandre III, c'est le pont justement donné par les Russes à la France. Mais je l'ai choisi, effectivement, pour ces sculptures marines, et avec quelque chose, effectivement, que je trouvais très pertinent par rapport au film.
Qui font écho au film, complètement. Je voulais qu'on parle un peu de mise en scène, de travail avec Hélène Louvard et justement de découpage, parce que c'est vrai qu'il y a toujours dans vos films, que ce soit les courts-métrages et celui-ci, une mise en scène du romanesque, enfin, et une façon d'utiliser aussi tous les outils du cinéma, que ce soit un zoom, un travelling, enfin, il y a un petit peu de machinerie, tout ça pour quelque part rendre une mise en scène très lyrique et très romanesque. Est-ce que je me trompe ?
Oui, moi, en fait, j'ai un peu de mal dans les cinémas quand on fait tout à caméra à la main, quoi. Je trouve vraiment appauvrissant par rapport aux possibilités du cinéma, du langage. Et du coup, je préfère, entre guillemets, me compliquer la vie parce que, en même temps, disons, j'ai l'impression parfois on peut tricher un peu mieux avec une caméra à la main, donner un peu plus de vie, de mouvement, faire des choses un peu plus vivantes, chercher un truc un peu. Et qui, en fait, un travelling ment pas, trahit pas. Si c'est mort, c'est mort. Si ce que tu filmes est dead, c'est dead. Enfin, il y a quelque chose. C'est comment donner vie à tout ça, comment créer une chorégraphie, je trouve, c'est plus compliqué. Avec un travelling, avec un steadicam, avec des choses de quelque sorte qui bougent de cette sorte dans l'espace, il faut des chorégraphies beaucoup plus précises, en fait. Et c'est plus difficile, mais je trouve justement le challenge pour moi beaucoup plus intéressant. Et même en termes de vraiment de langage. Et je pense que c'est important, justement, pour moi, sur quelque chose qui vit sous grand écran, qui est pensé pour le cinéma, de dialoguer aussi avec l'histoire du cinéma par rapport à ça. Et du coup, non, moi, c'était, moi, comme toujours, voilà, je prépare un découpage à l'avance, qu'après, je partage avec. Avec mon chef opérateur.
Hélène, en l'occurrence, ouais.
Et dans ce cas-là, c'était Hélène. Et du coup, moi, la première fois que je travaille avec Hélène, j'ai un énorme respect pour elle. Je ne sais pas comment elle allait réagir. Tu sais, mon découpage est tellement précis. Et c'était génial parce qu'elle n'a rien touché. Enfin, elle m'a juste donné deux indications sur deux plans, justement. Je me souviens encore très précis.
C'était quoi précis.
Effectivement, c'était un mouvement qu'elle disait, non, mais ce mot, effectivement, d'un coup, ça fait documentaire, c'est dommage. Tout le reste, c'était très cinéma, là, ce moment-là. C'était un panne, justement, je pense, je ne sais pas si c'était vers le pont Alexandre III, mais c'était un panne un peu... Et je pense que finalement, d'ailleurs, on a dû faire un pain, parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais on a fait un pain accompagné effectivement avec un mini rail, qui ça rend le mouvement plus élégant, effectivement, toujours. Mais ce qui était vraiment génial avec Hélène, c'est vraiment, elle a fait des films très très différents, et en même temps, je pense que c'est quelqu'un justement qui n'a pas besoin de mettre sa signature, qui est vraiment au service du film, qui justement s'imprègne de ce qui c'est la recherche d'un film. Et c'est quelqu'un d'une énorme intelligence, sensibilité, et enfin qui comprend vraiment le film qu'il voulait faire. C'est vraiment un magnifique compagnon de route et quelqu'un avec lequel j'adorais discuter justement des costumes, du casting. C'était une collaboration totale. Et il n'y avait jamais des questions d'ego, ça qui est aussi très rare, surtout avec des artistes de ce niveau-là comme Hélène, de vraiment... Justement, moi, je pouvais le dire sans problème. Enfin, déjà, moi, je fais beaucoup le frame, donc ça, enfin, pas tous les chefs-op, c'est nécessairement content, le cadre. Et aussi, enfin, s'il y avait une lumière ou une ombre, je n'étais pas convaincu. Enfin, je pouvais le dire sans problème à Hélène, elle changeait des choses. Il n'y avait pas un côté vexé. En même temps, elle pouvait me dire, toujours très discrètement, ah, tu sais, à ce moment-là, ce jeu, je ne suis pas sûr. Et c'était... C'était vraiment, pour moi, une collaboration idéale, je trouve. Et c'est sur un milieu d'un tournage qui était extrêmement difficile et dur, pour plein de raisons et conditions, d'avoir effectivement quelqu'un comme Hélène, de ces niveaux, je pense, de qualité de travail, et en même temps aussi de comment on dit, de charge humaine, de bonne humeur, de encore après 30 ans décalé, avoir ce désir de faire des choses, de l'amour pour faire des choses. C'était pour moi c'est une voilà, une très très beau exemple de comment on peut travailler.
Et du coup, ça produit des images de cinéma. C'est vrai que quand on a vu Disco Boy, on se souvient en priorité de le film nous revient comme ça par flash presque, par image de cinéma. Je pensais notamment à cette séquence de travelling, d'entraînement, qui est très forte. L'entraînement de la Légion, donc de ce groupe, et dans lequel, en fait, le personnage d'Alexei peine. Donc, il tombe, il se relève. C'est une séquence en travelling qui montre extrêmement bien l'épuisement qu'on peut ressentir quand on s'entraîne dans un groupe de Légion étrangère. Et en plus, il y a cette musique de Vitalik, je crois, qui apparaît dès ce moment-là, et qui du coup fait déjà écho avec les chorégraphies et la danse plus tard, quelque part. Le fait qu'il se relève, qu'il tombe et qu'il se relève, quelque part, on est déjà dans la danse, dans la chorégraphie.
Non, absolument, justement, quand je disais que le film est très chorégraphié, justement, je parlais de ça, parce qu'effectivement, il y a des scènes très chorégraphiées déjà dans les exercices. Parce que c'est ça une des choses qui m'avait marqué justement en observant aussi les entraînements, le moment des soldats, c'était un grand sens de la chorégraphie justement. Ils n'étaient jamais goofy. Ils bougeaient ensemble. Il y avait un travail de comment bouger ensemble. Ça m'a fait penser beaucoup aussi aux répètes de théâtre que j'avais l'habitude de voir. Comment on bouge ensemble effectivement. Comment personne reste à la traîne, justement, comme on dit dans le film. Et cette séquence, effectivement, c'était un vrai challenge technique aussi. Parce que faire un travelling pendant que des gens courent au milieu de la forêt, comme ça, longue, je vous assure, c'est très compliqué. Et en même temps, voilà, c'était, je pense, justement, un des journées les plus dures de tournage. Je me souviens ce jour-là, à un moment, parce qu'il y avait un stress énorme pour finir la journée à temps. Parce que voilà, on a fait ce film quand même 32 jours. Et pour les gens qui connaissent un peu le cinéma, savent qu'il y a 32 jours, on fait ce jour cuisine.
Bon. C'est ça. Pas beaucoup.
On ne fait pas ce genre de film. Et du coup, il y avait vraiment, c'est pour ça c'était un tournage très dur, il y avait vraiment une pression énorme pour finir chaque jour à temps et avoir le film à la fin. Et justement, cette journée, on avait des scènes très compliquées d'un point de vue technique, avec des chorégraphies. C'est des chorégraphies, disons, qui sont derrière la caméra, pour ce qui concerne les techniciens, et des chorégraphies qui sont
devant
et qui concernent les acteurs. Il faut que tout marche. Et du coup, voilà, il faut plusieurs takes pour que tout ça puisse marcher. Et
plusieurs prises.
Plusieurs prises. Et effectivement, voilà, j'aimais bien qu'il y avait vraiment ce long sentiment de course au milieu de la végétation, avec ces tenues bleues qui justement faisaient un beau contraste avec le vert et qu'on allait justement sentir d'ailleurs l'épuisement. D'ailleurs, ils étaient vraiment épuisés. Hein, parce que,
j'imagine, combien il y a eu de prises
Déjà, il y a eu pas mal de prises parce qu'en plus, on a tourné dans plusieurs directions. Après, on trichait pas mal sur cette scène. En fait, c'est toujours le même rail qu'on utilise pour faire toute la course dans toutes les directions possibles. Mais je changeais parfois d'optique, de direction. En fait, je faisais de l'autre côté. Enfin, c'est du cinéma, quoi.
Ouais.
On fait du faux pour avoir du vrai. Et après, voilà, c'était plusieurs jours extrêmement durs, je pense, pour les comédiens, pour la figure. Par chance que dans la figure, on avait vraiment des anciens légionnaires. Du coup, ils assuraient. Mais il y avait aussi des sportifs. Et les sportifs, même si, voilà, ils assuraient, ils souffraient beaucoup plus parce que c'était objectivement dur. Et avec moi, j'avais même un coach de la Légion étrangère. Et qui en fait, il mettait bien l'ambiance, quoi. C'était, je pense, que c'était important qu'il était là. C'était une sorte de un autre premier assistant réalisateur pour toutes ces scènes-là, et c'était vraiment important parce qu'il faisait tout de suite rentrer les gens vraiment dans le mood. Mais c'était intense.
Et aussi cette idée, en fait, dès cette partie de la Légion étrangère, cette idée qui est très importante, qui rejoint finalement l'idée de trans, qui est l'idée d'abandon. C'est-à-dire qu'on leur demande de s'abandonner, quelque part, à la Légion étrangère. On leur demande de s'oublier. Et quelque part, on retrouve ça dans la transe. Enfin, on retrouvera ça plus tard dans le film, dans la transe.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est exactement ça. Ça m'intéressait. Déjà, il y avait cette idée de la Légion étrangère un peu comme famille. que je trouvais ça assez vrai et pertinent. Justement, je voulais, quand je faisais ce film, avoir aucun a priori, d'ailleurs, sur la Légion. Le film n'est pas du tout contre la Légion en soi, surtout pas contre les hommes qui sont dans la Légion. Plutôt, disons, comment ils sont utilisés, on peut en discuter. Et aussi le fait qu'ils sont envoyés, d'ailleurs, dans les fronts les plus dangereux. Et souvent, c'est eux qui sont envoyés, justement, en premier, dans les contextes plus difficiles. Ils savent très bien, les gens qui sont, justement, dans l'armée française, où on envoie les légionnaires. Et du coup, ce fait qu'ils sont souvent utilisés aussi comme chair à canon, ça m'a donné davantage de l'empathie en fait pour eux. Et le fait qu'ils sont tous un peu avec des horizons très différents, mais très... Je pense que quand tu es dans un pays où tu connais quasiment personne souvent quand tu arrives, tu as besoin de te créer une famille. Et c'est pour ça que je pense, là, dans tous les corps militaires, il y a un côté de frérie, de famille, machin. Mais je pense à la Légion, c'est particulièrement fort, et particulièrement vrai, et particulièrement, pour moi, intéressant. Et c'est pour ça aussi que le personnage du chef lieutenant de Paul n'est pas du tout comme l'instructeur de Full Metal Jacket, par exemple. Il a un côté dur, absolument, mais c'est plus à l'air d'un père dur, mais assez juste à la fin.
Oui, il a presque un côté presque burlesque aussi. Enfin, il a un côté avec cette grosse moustache qui renvoie un peu au cinéma burlesque d'américain.
Tout à fait, au italien des années 70.
Italien aussi, bien sûr. Ouais, complètement, ouais.
Je pense que c'est extreme close-up, tu vois, ces gros plans très, très forts sur lui. Mm. Bien sûr, il a un côté un peu burlesque. Parce que pour moi, les codes militaires, ils ont quand même un côté potentiellement très burlesque. Oui, donc, oui. J'arrive pas à ne pas m'amuser un petit peu avec ça. Mais après, pour moi, il y avait vraiment quelque chose de charron dans ce personnage, en fait. Et que Léon pouvait l'incarner bien, une espèce de passeur d'âme. Et je pense, voilà, Léon, c'était quelqu'un aussi que c'était intéressant parce que, justement, lui ne parle pas un mot de français. Du coup, il devait tout apprendre par cœur. D'ailleurs, tous les personnages ne parlent pas la langue dans laquelle ils jouent.
Donc, oui, c'est complètement passionnant. Ouais. D'ailleurs, c'est très lié à la Légion, d'ailleurs, où on a plusieurs accents, plusieurs langues. Et là, effectivement, il y a ce décalage qui fait qu'aucun acteur ne parle sa langue maternelle.
Oui, la langue dans laquelle il joue, oui, il ne la parle pas. Et du coup, on a travaillé sur la musicalité avant tout de l'interprétation. Et après, j'avais avec moi, bien sûr, des coachs, des langues qui vérifiaient effectivement que c'était compréhensible ce qu'il racontait. Mais effectivement, j'aimais cette idée de vraiment... une fois aussi que j'avais décidé d'avoir Rogoski pour interpréter un Biélorusse, de totalement m'en foutre la question du passeport. Dans les choix des acteurs, de vraiment choisir l'acteur qui pour moi avait vraiment l'âme du personnage. Et ça a pris beaucoup de temps, mais ça me rendait beaucoup plus libre. Et bien sûr, j'aurais jamais pu le faire si j'aurais fait ce genre de choix, par exemple, que pour le casting africain. J'aurais trouvé ça totalement abject d'aller choisir en toute Afrique juste pour le casting africain. Mais au moment là que je l'avais fait pour l'acteur principal, je pouvais le faire d'une façon libre sur tout le casting du film. Et je trouvais ça vraiment justif. Même parfois, on a justement les obligations de coproduction, machin. Mais ça, vraiment, j'ai insisté pour garder une liberté de ça. Parce qu'on n'a pas de coproduction avec l'Allemagne pour ce film. Et quand même, l'acteur principal est allemand. On n'a pas de coproduction avec la Croatie et Léon Louche avec les Croates. Normalement, on a ce genre de coproduction. On aurait dû avoir un chef lieutenant belge et un acteur principal français qui joue en Biélorusse. Quoi. Enfin,
ouais, ouais.
Ça, c'est le paradoxe parfois auquel on nous oblige en tant que réalisateur dans les coproductions internationales.
Mais ça, des euro-pudding.
Voilà. Mais effectivement, j'ai eu la chance aussi qu'à un moment, voilà, j'ai convaincu les producteurs de l'importance de ça et qu'à un moment, ils m'ont soutenu dans ça, parce que pour moi, c'était une évidence que ça n'aurait jamais pu marcher, ce film, même avec le meilleur acteur français du monde. Le fait d'interpréter un étranger en France, ça aurait été ridicule dès la première minute. Et même, au même de choisir un Italien pour ce genre de rôle, ça n'aurait pas marché. Il fallait quelqu'un qui incarne une certaine altérité. Et Franz Rogoski, c'était quelqu'un, effectivement, qui même dans son visage était aussi crédible comme Biélorusse, je trouvais. Dans son corps, enfin... Et le fait qu'il objectivement ne parle pas d'ailleurs en français et qu'il y a aussi d'ailleurs une façon, une éloquence assez étrange en fait, ça aussi ça collait pour moi assez bien au personnage.
On va terminer l'émission, ça passe vite. Il y aurait plein de choses à dire. Aussi, il y aurait tout le travail avec Maxence Dusserre qui était important sur la musique, l'autre aspect musical du film, justement, puisqu'on parlait de musicalité.
Tout à fait, on a fait vraiment des interventions ponctuelles, très importantes avec Maxence, notamment des ultrasons aussi.
Oui.
Qu'ils ont créé des liens justement entre la mort de Mikhaïl et l'enterrement de Jomo. Ça, c'était très important que, aussi d'un point de vue sonore, ces deux scènes se fassent écho.
Complètement. Ouais, il y a plein d'échos comme ça, de toute façon, dans le film, c'est vrai. Et ce qui me fait dire que le film, il est beaucoup travaillé par la contamination. Et que c'est vrai que toutes les scènes à Paris sont peu à peu envahies quelque part par la jungle. Cette apparition de Jomo, à un moment donné, elle se fait d'ailleurs, elle aurait pu se faire presque, c'est une apparition mentale, presque comme s'il était dans la jungle du Nigeria. Donc il y a plein de choses comme ça qui nourrissent vraiment le film.
Oui, tout à fait ça. Je pense qu'à un moment, vraiment, quand on parlait tout à l'heure de structure à spirale, c'est ça aussi. Il y a une espèce de trou noir au centre du film, qui c'est la scène du combat entre Alexei et Jomo qui tourne une caméra thermique.
Oui.
Et après, vraiment, autour de cette scène, il y a plein, effectivement, d'échos, de contaminations, même par rapport aux couleurs. Les couleurs de la caméra thermique envahissent la boîte de nuit. Il y a quelque chose dans le son qui revient constamment. Il y a ce souffle. D'ailleurs, à un moment dans le film, au moment de la métamorphose, quand Alexei, après qu'il allait dans la chambre de Doka, il se promène effectivement dans la jungle, on a travaillé au son avec construit un nouveau souffle, en fait, un souffle qui a intégré la respiration d'Alexei, la respiration de Jomo, et créé une troisième souffle. Et ça, bien sûr, c'était quelque chose qui allait être pas du tout lisible. On était presque on rigolait avec le monteur son en disant qu'on est en train de faire de la magie noire, quoi. Mais c'était quelque chose, effectivement, pour donner quand même cette étrange contamination. Il y a des choses justement subliminales qu'on ne s'explique pas, mais qui agissent sur nous. Je pense justement aux ultrasons qu'on a travaillé sur Maxence. C'est des choses qui, effectivement, dans le spectateur, créent des liens. Et encore une fois, j'avais insisté justement pour tourner dans le même décor la scène de la mort de Mikhaïl avec la scène de l'enterrement de Jomo. Et c'est parce qu'à un moment, il fallait que ce soit la même boue, la même terre, même si la lumière est un peu différente et tout ça, et que du coup, ça crée ce rapport entre les deux scènes.
Passionnant. Disco Boy, dans les salles, vous pouvez aller le voir, et vous aurez compris, c'est un film très riche, un film de Giacomo Abruzzese, que je remercie d'être venu dans cette émission, produit par les films Grand 8. On a beaucoup parlé d'eux, les producteurs qui ont permis que ce film existe, et distribué dans les salles par KMBO. Voilà, merci, et on écoute pour terminer l'émission, un deuxième titre de la BO, un deuxième extrait de Vitalik, et son Cœur des Ténèbres, voilà, Heart of Darkness.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.